France Culture.
La faim, elle n'est pas rencontrée comme le résultat d'une pénurie. Elle est produite comme le fruit d'une organisation. Il faudrait parler d'une faim, FIM, sophistiquée, par opposition à une faim de pénurie. Ce qui est produit, c'est la faim. Le système, il produit la faim.
Deleuze retrouvé. 16 leçons de philosophie. David Lapoujade.
En 1980, Gilles Deleuze consacre une grande partie de l'année à interroger les origines et la transformation de l'appareil d'État, de ses formations les plus archaïques jusqu'à son intégration dans le système capitaliste actuel. Dans l'extrait du 18 mars 1980 que vous allez écouter, Deleuze veut montrer, à travers un exemple emprunté au sociologue et philosophe Robert Linhart, à quel point le capitalisme nous entraîne dans un processus irréversible qui, dit-il, évidemment fait notre malheur. 12e épisode sur le capitalisme et ses famines, cours du 18 mars 1980.
Est-ce que peut-être vous sentez qu'on se rapproche, mais nous essayons de nous rapprocher du concret d'une manière très, très progressive, très prudente. Si on veut comprendre même peu de choses à l'histoire, par exemple, actuelle pétrole nucléaire, vous voyez bien que c'est le cas typique de ce processus périodique du capitalisme, à savoir dépréciation du capital existant, création d'un nouveau capital. Ça répond exactement. C'est pour ça que là aussi, la crise du pétrole n'est pas imposée du dehors au capitalisme, mais que c'est vraiment une limite au sens de limite immanente, dépréciation d'un type de capital qualifié, recréation d'un nouveau capital. C'est absolument nécessaire pour que précisément la limite soit produite comme à la fois ce dont on ne cesse de se rapprocher et ce qui s'éloigne à mesure qu'on s'en rapproche. C'est le processus de la création d'un nouveau capital sur dépréciation périodique du capital existant qui va être un des processus capitalistes les plus fondamentaux. Or, alors, essayons juste de tirer une conclusion. Si vous comprenez ce point, que le capitalisme marche précisément sur ces deux phases, cette espèce de double phase, dépréciation du capital, création d'un nouveau capital, ça donne un statut à quelque chose qui est en effet très affolant dans le capitalisme, à savoir son impuissance à revenir en arrière. Revenir en arrière, ça veut dire quoi? Évidemment, ça ne peut pas vouloir dire revenir à la hache, au silex, au primitif, etc. Mais l'impuissance dans des choix politiques et économiques de revenir même à une chose qui aurait été possible quelques années auparavant. Comme si, en effet, la nature de la limite immanente définissait à la lettre ce qu'il faut appeler une flèche irréversible, un cours irréversible du capitalisme, qui évidemment fait notre malheur. Si je résume l'ensemble de notions que j'ai dans cette seconde rubrique de la saturation, je dis la saturation, c'est la limite immanente. Je dis la limite immanente, c'est une limite qui est à la fois produite par le système, dont le système ne cesse pas de se rapprocher et qui recule à mesure qu'on s'en rapproche. Je dis, le rapport du système avec cette limite définit une flèche irréversible, un cours irréversible. Or, vient d'apparaître un livre que je trouve très beau, et qui concerne un tout autre sujet, mais qui me semble être une illustration de ce thème. Si j'essaie de dire concrètement, eh ben oui, voyez comment ça fonctionne, la limite immanente. C'est un livre de Robert Linhart, qui est une espèce d'enquête sur ce qui se passe actuellement au Brésil. Le livre s'appelle « Le sucre et la faim ». « Le sucre et la faim », FIM, et a comme sous-titre « Enquête dans les régions sucrières du nord-est brésilien ». Voilà, je voudrais juste raconter certains points de ce livre et lire des passages. Et mon seul commentaire, ce serait de marquer en quoi j'en ai besoin, c'est-à-dire en quoi c'est l'illustration même d'un des thèmes trop abstraits que je viens d'essayer de développer. Linhart nous dit une chose qu'il le dit si parfaitement que je veux dire que même si on le pensait, il le recrée. C'est très beau la manière dont il le dit. Il le dit, vous savez, la faim dans le monde, hein, des gens qui ont faim, c'est pas une limite extérieure. C'est ce qu'il appelle la faim produite. ce que j'essaie de dire plus confusément, quand je parle de limite immanente, c'est précisément par opposition à une limite extérieure. En d'autres termes, la fin, elle n'est pas rencontrée comme le résultat d'une pénurie. Elle est produite comme le fruit d'une organisation. En d'autres termes, malgré que le mot n'est pas joli, il faudrait parler d'une fin FIM sophistiquée, par opposition à, ou bien une fin qui n'est pas du tout une fin de pénurie. Ce qui est produit, c'est la fin. Voilà là. Voilà. Le système, il produit la fin. C'est ça, la limite immanente. Comment est-ce qu'il produit la fin? Il faudrait montrer qu'il le produit dans le processus même de son développement. Alors, comme idée générale, c'est nul, c'est tout le monde sera prêt à dire d'accord, ben oui. Chaque fois qu'on trouvera une analyse concrète, extrêmement concrète, pour donner un sens à ces formules abstraites, ça prendra évidemment une importance plus grande. Ben, prenons l'exemple de la canne à sucre, dans la région du nord-est brésilien. Voilà que, et j'ai juste besoin d'ajouter, ça fait bien partie du processus produire pour produire et en même temps produire pour le capital. Développement de la canne à sucre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est vraiment un développement comme aveugle. Hein. De plus en plus de parcelles de terre vont être prises par la canne à sucre. Produire pour produire du sucre. Vous me direz pourquoi? Parce que c'est en même temps produire pour du capital, pour le capital sucrier. Bon, alors on produit pour produire du sucre parce que par là même, c'est le seul moyen pour produire pour le capital sucrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque parcelle de terre va être plantée en canne à sucre. Ça veut dire développement d'une immense propriété, d'une grande propriété foncière. Vous voyez, produire pour produire du sucre et produire pour le capital sucrier, cette contradiction apparente est déjà en train de se dissiper complètement. Il n'y a que le capital sucrier qui puisse produire du sucre pour produire du sucre. Partout, vous allez faire de la canne à sucre. Ce n'est pas rien, ça. C'est une conséquence immédiate. En quel sens? La limite, encore une fois, je raconte tout ça pour montrer dans un cas précis comment la limite est produite du dedans et pas rencontrée du dehors. Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes dans cette situation? Vous pouvez concevoir, il s'agit bien d'un développement du capital, pas d'une création. En d'autres termes, vous pouvez concevoir que cette situation, par rapport à la situation précédente, présente au moins deux caractères catastrophiques. Deux caractères catastrophiques du point de vue des populations. Premier caractère, effondrement des parcelles privées. Ah bon, oui, dans les premiers stades du capital sucrier, c'est une espèce de stade de grande ferme. Mais la grande ferme, si dure qu'en soit le régime, et ce n'était pas la fête, la grande ferme, elle conserve encore aux travailleurs agricoles la possibilité de petites parcelles privées, où ils peuvent faire de la culture diversifiée. Un minimum de culture diversifiée. Le développement du capital sucrier partout de la canne à sucre a pour première conséquence quoi ? La monoculture. Ici, je rappelle que un des problèmes fondamentaux de l'économie du tiers-monde, c'est précisément les méfaits capitalistes de la monoculture ou de la monoproduction. Pourquoi? C'est dans cette monoculture, donc, déjà. On comprend alors comment, déjà, la limite est produite du dedans. En ce sens que toute la terre est occupée sous la forme de la grande propriété qui anéantit tout ce qui restait des parcelles privées cultivables par les travailleurs agricoles. Pratiquement, ils s'en vont dans la ville. Encore une fois, ce n'est pas que le vieux temps de la ferme était bon, au contraire, il y a même des raisons positives pour lesquelles ils émigrent dans la ville. Mais réellement, il y a un mouvement qu'il faut bien appeler de déterritorialisation. Ça va être à la base de la formation des grandes villes bidonvilles. Et en plus, toute possibilité d'une nourriture un peu diversifiée est supprimée. À savoir, les petites parcelles privées permettaient le maintien d'une certaine hétérogénéité dans l'alimentation. La monoculture a une conséquence catastrophique, c'est qu'il n'y a plus du tout possibilité locale d'une nourriture diversifiée. La nourriture homogène du nord-est brésilien devient même pas l'absence de nourriture. En un sens, c'est presque pire. Enfin, pire, on ne sait pas ce qu'est le pire. C'est une espèce de haricot noir. Un féculent du type haricot noir, la nourriture régionale là-bas. Voilà le texte de Linhart qui me paraît très... Si vous me suivez, il me semble que là, on saisit sur le vif la constitution de ce que j'appelais la limite immanente. C'est ce qu'il appelle précisément une fin moderne. Je veux dire, une fin moderne, c'est, si vous voulez, la fin FIM, la fin immanente. Ce n'est pas une fin primitive ou dite primitive, ce n'est pas une fin qui serait la rencontre avec une pénurie, c'est une fin produite par le mécanisme du capital moderne. Voilà ce qu'il dit. Je lis lentement, le texte m'apparaît très, très clair. « À mesure que je recueillais témoignages et données, la fin m'apparaissait avec une terrible netteté, comme la matière et le produit d'un dispositif compliqué jusqu'au raffinement. La fin n'était pas une simple absence spectaculaire, presque accidentelle, d'aliments disponibles. » Ça, ce serait la fin extérieure, ce serait la fin pénurie. Comme on nous la présente quand on veut nous faire croire qu'il suffirait pour l'étancher de mouvements de charité ou de secours d'urgence. La faim du nord-est brésilien était une part essentielle de ce que le pouvoir militaire appelait « développement du Brésil ». La faim, tout comme la limite, est un élément constituant du développement, la faim est un élément constituant du développement. Ce n'était pas une fin simple, une fin primitive. C'était une fin élaborée, une fin perfectionnée, une fin en plein essor, en un mot, une fin moderne. Je la voyais progresser par vagues, appelées plans économiques, projets de développement, pôles industriels, mesures d'incitation à l'agriculture, à l'investissement, mécanisation et modernisation de l'agriculture. En effet, cette monoculture sucrière implique une agriculture hautement industrialisée. Il fallait beaucoup de travail pour produire cette faim-là. De fait, un grand nombre de gens y travaillaient d'arrache-pied. On s'y affairait dans les buildings, les bureaux, les palais et toutes sortes de postes de commandement et de contrôle. Cette faim bourdonnait d'ordres d'achat passés par Telex, de lignes de crédit en dollars, marques, francs, yens, d'opérations fiévreuses. On n'en avait jamais fini d'entrer dans le détail de la production de cette faim. Des commerçants, des banquiers, des armateurs, des chefs d'entreprise, des experts, des hommes d'affaires y avaient leur part, et une armée d'intermédiaires, de courtiers et de négociants, et de bureaux d'études, des instituts de planification et des généraux, des hommes politiques, des policiers. Par ses caractéristiques mêmes, cette faim se confondait avec le développement du mode de production. Monoculture sucrière, monotonie alimentaire, une faim lente, patiente, une faim de grignotage progressant au rythme de l'économie marchande. Et en effet, il cite le témoignage d'un médecin qui analyse très bien ce type de la faim liée à une monoculture. Et voilà, le médecin dit, oui, avec la disparition de petites parcelles où on pouvait encore maintenir une agriculture, une culture un peu diversifiée, avec le développement d'une monoculture sucrière très très industrialisée, maintenant on rencontre la canne jusque dans les villes et les paysans ne voient plus d'autre nourriture que le haricot noir, le manioc, exceptionnellement la viande séchée. Pas de poisson, pas de lait, pas de vitamines. La malnutrition pendant la vie embryonnaire et les 18 premiers mois de l'enfance entraîne la déficience mentale définitive. Il manque aux enfants jusqu'à 60% des neurones du cerveau et cette destruction est irrémédiable. Autre conséquence, la taille moyenne des paysans diminue, etc., etc. Voilà, si vous voulez, comme le premier point, je dis que si l'on saisit bien cette notion de fin produite, ce que Linhart propose d'appeler fin moderne, la fin qui est produite par un processus de développement en tant que tel, on a exactement ce que je cherchais à faire sentir, à faire saisir, à savoir. Ce statut de la limite immanente. Et je voudrais chercher si on a le moyen aussi de donner un statut concret à l'idée de la flèche irréversible, quelque chose d'irréversible dans ce mouvement par lequel une limite est produite, limite constamment repoussée, en même temps qu'elle est atteinte. Car c'est terrible ce processus. Je veux dire, la faim, ça n'a jamais été une manière dont on supprime les gens. En un sens, ce serait presque trop beau si les gens, comme on dit, ils en mourraient. Il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Mais ce qu'il y a de terrible dans la faim, c'est que la faim aussi, ça multiplie les affamés. C'est-à-dire, ça en reproduit autant que ça en fait périr. Or, ça c'est bien le processus de la limite qui est perpétuellement repoussé en même temps qu'on s'en rapproche et qu'on ne cesse pas de s'en rapprocher. Or, en effet, qu'est-ce que c'est que cette flèche irréversible dans le système capitaliste? J'essaie de reprendre là cette même situation dans le Brésil. Voilà ce que nous dit Lima. C'est que le développement de la monoculture sucrière hautement industrialisée, qui ravage et supprime toutes les petites parcelles subsistantes, eh bien, ce n'est pas encore le dernier mot. Car voilà l'histoire qu'il nous raconte et qui est très fascinante, il me semble. C'est que cette monoculture sucrière, elle a comme un premier grand stade de développement, à savoir produire du sucre pour produire du sucre. Mais ça ne s'arrête pas là. Second grand stade de développement, on va servir de l'alcool de sucre pour le mélanger à l'essence et faire marcher les voitures. Bon, ça répond bien à produire pour produire, il faut bien en faire quelque chose de cette surproduction. Le marché du sucre, il ne va pas fort, le marché mondial, donc bon. On va servir d'une partie de l'alcool du sucre pour produire une essence meilleur marché. C'est un second stade du développement, puisqu'il ne s'agit plus de la grande propriété foncière, toute l'industrie automobile entre dans le coup du développement sucrier. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? À partir d'une certaine proportion d'alcool de sucre, par rapport à l'essence, là aussi c'est très proportionnel, il faut des moteurs spéciaux. Tant que la proportion est minime, on peut encore le faire en arrangeant les moteurs de voiture classiques. Quand la proportion augmente de l'alcool de sucre par rapport à l'essence, il faut des moteurs spéciaux. Donc, nécessité d'instaurer, de construire des usines qui vont fabriquer ces moteurs. Évidemment, avec des capitaux étrangers. C'est ce qui se fait dans cette région du nord-est brésilien. Ça implique des investissements énormes. Là, je n'ai pas besoin de forcer ni de développer, je suppose que vous comprenez immédiatement. C'est un exemple même de ce processus ou de cette flèche irréversible dont je parlais tout à l'heure, à savoir dépréciation du capital existant, recréation d'un nouveau capital. Je dis le capital sucrier subit une dépréciation dont témoigne le cours mondial du sucre, qui en effet est très bas. À la dépréciation du capital sucrier existant répond une recréation d'un nouveau capital, cette fois-ci dans l'industrie automobile, qui va servir de l'alcool de sucre sous condition de fabriquer un nouveau type de moteur. Résultat, si je prends ces deux stades de la culture sucrière dans un premier stade de développement qui annihile toutes les parcelles qui auraient permis le maintien d'une alimentation encore diversifiée. Deuxième stade, passage à l'industrie automobile qui va fabriquer des types de moteurs. Sentez que, même si je pouvais dire, au premier stade, il suffisait encore d'une révolution, pardonnez-moi n'importe quel mot, il suffisait encore d'une révolution restreinte pour abattre la monoculture sucrière. Par exemple, reformer des coopératives, réassurer la possibilité d'une alimentation relativement diversifiée, etc. Au second stade, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des investissements industriels qui, eux-mêmes, dépendent de cette monoculture sucrière. Revenir en arrière impliquera à ce moment-là des opérations beaucoup plus difficiles, beaucoup plus complexes, impliquera une révolution d'autant plus radicale, qui à ce moment-là heurte à ce moment-là des intérêts tellement multipliés qu'elle risque d'être liquidée. Donc c'est dire que ça n'allait pas déjà fort avant, après ça va encore moins bien. En même temps, c'est le cheminement de cette limite, cette espèce de limite très très curieuse, cette espèce de limite vraiment rongeante, qui fait que vous ne cessez pas de vous en approcher, elle recule, et en même temps, elle dessine une flèche absolument irréversible.
C'était Deleuze Retrouvé, 16 leçons de philosophie, réalisées à partir des enregistrements des cours donnés par Gilles Deleuze à Paris 8, déposés et archivés à la Bibliothèque nationale de France, choisis et introduits par David Lapoujade. Réalisation Thomas Jost, prise de son Benjamin Vignal, restauration sonore Grégory Vallon et Jean-Marc Potry, une série proposée par Camille Renard. Retrouvez tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.